Taxe. Hier, le ministre responsable des services sociaux au Québec, M. Lionel Carman, a déposé un projet de loi qui veut interdire justement qu'on puisse installer un centre d'injection supervisé près de nos CPE et de nos écoles. On va jaser avec M. Carman de ce projet de loi-là. Immédiatement, il est au bout du fil. Bon matin, M. Carman.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin.
Oui, ça fait plaisir.
Pouvez-vous, en commençant la discussion, nous expliquer en quoi consiste le projet de loi que vous avez déposé hier?
Oui, il y a trois parties. Tu sais, il y a la première partie qui dit qu'on ne veut pas que les centres de consommation supervisés soient à moins de 150 mètres des écoles, garderies ou CPE. Il y a une deuxième partie qui vient dire que tout centre de consommation supervisé devra déposer un plan de cohabitation pour s'assurer qu'on gère la situation à l'intérieur de la bâtisse, mais également à l'extérieur. Puis la troisième chose aussi, c'est que je viens demander aux établissements et à la santé publique que quand ils ouvrent ou quand il y a un centre de consommation supervisé, qu'ils soient mis en lien avec les aspects traitement des dépendances, pour que si quelqu'un veut sortir de la dépendance et de la toxicomanie, il puisse le faire, incluant les personnes qui sont en situation d'itinérance. Puis ce lien-là, actuellement, il n'existe pas. Donc, c'est tout ça, le projet de loi.
Monsieur Carman, comment on a décidé de la distance du 150 mètres entre les centres et les CPE et les écoles?
Ben, on a fait une étude de la distance actuelle de tous les centres.
Okay.
Le 150 mètres était relativement plus facile à appliquer. Ça correspond également aux distances qui sont pour les SQDC dans les centres urbains. Donc, on trouvait que c'était une distance qui était adéquate, facile à appliquer, puis qui nous permet de protéger nos enfants puis leurs familles.
Monsieur Carman, j'ai écouté votre point de presse hier et vous parliez beaucoup de la vente de drogue autour, justement, de ces centres de consommation supervisés. Comment qu'on va faire pour venir enrayer ce fléau-là? Parce qu'on s'entend, c'est correct, ils consomment, sont supervisés, on veut travailler avec eux pour les amener justement vers une non-dépendance, mais là, quand ils sortent, puis il y a quelqu'un pour leur vendre du stock, permettez-moi l'expression, c'est problématique.
Exactement. Mais vous savez, la santé publique régionale gère des tables intersectorielles sur ce sujet de la consommation supervisée où sont assis tous les joueurs. Puis d'ailleurs, par exemple, pour Benoît Lampe, ce qu'on est venu faire, nous, c'est rehausser les services d'un organisme communautaire qui fait du travail de rue, la Société de développement social de Montréal, et qui sont venus nous aider dans à disperser vendeurs, etc. On a parlé également au SPVM. Donc, tu sais, il faut que ce travail-là soit fait et préparé en amont. C'est ça qu'on vient de dire.
Monsieur Carman, parlez-moi de l'importance de, justement, ces centres-là d'injection supervisée dans nos communautés. Ça a longtemps été un débat de société, de les avoir ou pas de les avoir. Quelle est l'importance de ces centres-là dans nos communautés?
Mais c'est ça aussi que je viens de dire dans le projet de loi, c'est que ces centres-là sont importants. On vit une crise des surdoses, puis au Québec, ce qui est important de dire aussi, c'est oui, il y a le fentanyl, mais il y a aussi les stimulants, là, comme le crack et d'autres substances qui causent des décès. On est encore dans une augmentation des décès si on compare 2024 par rapport à 2023. C'est qu'il faut pas barrer les centres de consommation supervisés. Il faut que ce soit accessible, mais également acceptable pour les citoyens. En déposant le projet de loi, c'est ce qu'on vient faire, puis on vient préparer si jamais on a besoin d'ouvrir d'autres centres, spécifiquement des centres qui offrent des services pour l'inhalation, ce qui nous manque un peu encore au Québec.
Mis à part ça, M. Carman, qu'est-ce qui nous manque pour venir changer la courbe à l'heure actuelle au niveau des morts par surdose? Parce que année après année, on atteint des niveaux records, c'est très désolant. Qu'est-ce qui manque au Québec pour réussir justement à venir rabattre cette fameuse courbe-là?
Ben, c'est justement cet accès aux services de traitement qui est difficile. Tu sais, ce qui arrive, par exemple, la police prend quelqu'un, l'amène à la salle d'urgence, puis le lendemain, il est de retour dans la rue. Nous, dans le projet de loi, ce qu'on vient de dire, c'est qu'il faut développer une trajectoire pour que les gens qui sont, même ceux qui sont en situation d'itinérance, peuvent avoir accès à un centre de réadaptation en dépendance, à de l'hébergement en dépendance. Et on veut commencer cette année un premier projet pilote à Montréal. Je travaille déjà avec le CIUS de la Capitale-Nationale pour Québec. Donc, c'est cette trajectoire. On l'a développée pour l'itinérance et la santé mentale. Maintenant, il faut la développer pour l'itinérance et la toxicomanie.
Monsieur Carman, je suis curieux de savoir comment votre projet de loi a été accueilli hier et quelle est la suite des choses pour qu'on l'applique.
Bien, je pense que maintenant, on a déposé le projet de loi. Mm-hmm. Bon, vous savez, je suis un ministre qui est toujours prêt à collaborer avec les oppositions pour bonifier le projet de loi. Donc, je vais être à l'écoute des groupes, je vais être à l'écoute de tous ceux qui vont venir nous parler en commission parlementaire. Et on va faire ce qu'on a à faire pour bonifier le projet de loi. Je pense que le projet a été bien accueilli. Les intentions sont vraiment positives. Comme je vous dis, c'est un équilibre entre notre besoin d'avoir des centres de consommation supervisés, mais également notre besoin de protéger nos enfants et nos familles.
Votre gouvernement est questionné énormément sur les budgets avec l'étude des crédits budgétaires cette semaine. On se rend compte qu'il y a énormément de besoins dans la population, notamment en termes d'hôpitaux et de centres de soins de santé. À quelle place ça prend justement dans les priorités du gouvernement, que ce soit la surdose ou même, je vais parler d'un autre dossier qui vous tient à cœur, l'itinérance?
Bien, je dois vous dire que quand on a déposé avant qu'on dépose le plan d'action interministériel en itinérance, là, les budgets récurrents du gouvernement du Québec en itinérance étaient autour de 5 à 10 millions de dollars par année. Là, cette année, on est rendu à 100 millions de dollars. C'est vraiment une augmentation importante, mais dans la situation que l'on vit post-pandémie, je pense que notre gouvernement a répondu présent à chaque niveau. Puis, ce qui est important de dire aussi, c'est que nous, on est rendu à une étape où maintenant, ce qu'on veut, c'est de l'accompagnement en logement aussi. Ça, j'en parle à tous les établissements, les CIS et les CIUS, que nous, ce qu'on veut, c'est développer de l'accompagnement en hébergement pour que les gens puissent sortir de la rue et retourner en logement avec de la supervision, parce que ça, c'est une partie très importante de la trajectoire.
Donc, ça va être vers ces endroits-là qu'on va cibler, là, justement, le financement là, pour les prochaines années.
Exactement, exactement. Nous, on pense qu'on a suffisamment de refuges. Ce qu'on veut maintenant, c'est de l'hébergement avec accompagnement.
Il y aura on va connaître les chiffres prochainement du dernier recensement en itinérance. Alors, en terminant, est-ce que vous attendez encore à une hausse, mais est-ce qu'on sera dans notre dernière hausse avant justement de voir des meilleurs jours en matière de lutte à l'itinérance?
Bien, ce qui m'encourage, monsieur, c'est que l'an dernier, on a mis en logement 3144 personnes, ce qui est quand même pas rien. Mm-hmm. Pour 25-26, j'ai lancé un défi, une cible de 5 000. Et ce qu'on est en train de faire aussi, c'est qu'on est en train de mettre des mécanismes de prévention de l'itinérance à la sortie carcérale, à la sortie des centres jeunesse. Là, on travaille sur quelque chose pour ceux qui perdent leur logement au tribunal du logement. Donc, on travaille sur multiples façons de prévenir l'itinérance, puis renverser la tendance pour qu'il y ait plus de gens mis en logement que de gens qui deviennent en situation d'itinérance.
Lionel Carman est le ministre responsable des services sociaux au Québec. Monsieur Carman, merci beaucoup pour votre temps ce matin. C'est très apprécié.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Je me souviens du moment où on a commencé à jaser, là. C'était à ce moment-là, plus du côté de Montréal, mais ce oui. genre de centre-là.
Exactement.
Et le débat de société que ça l'avait, ben voyons donc, c'est comme si on légalisait les drogues dures ou qu'on encourageait. Puis là, l'autre côté de la médaille, c'est non, hein, ces gens-là vont consommer d'une façon ou d'une autre, mm-hmm. à un endroit ou un autre, ça serait bien mieux que ça soit dans un environnement encadré. Et là, après ça, t'as le débat, mais on met ça où? On met ça où dans nos communautés?
Oui, et là, tout le débat a émané justement à Montréal. C'est un centre là, de consommation supervisée, la maison Benoît Labre, qui se retrouvait à l'intérieur justement du périmètre ouais. de 150 mètres d'une école primaire. Alors, c'est pour ça que le projet de loi a émané. C'est Marois Risky, on l'aime beaucoup, Marois Risky, comme politicienne. C'est elle qui a sorti justement cette nouvelle-là. Et elle a travaillé de pair avec le ministre Carman là, pour la production de ce projet de loi-là. Donc, quand le ministre Carman dit « Je suis très à l'aise de travailler avec les oppositions », là, c'est vrai.
Ouais.
Il l'a fait avec Marois Risky. Alors, c'est pour ça qu'on a mis certains paramètres. Et là, bien, les centres qui sont à l'intérieur du 150 mètres vont avoir 4 ans pour se relocaliser. Je pense que le délai...
Oui, il y a un tampon.
Oui, c'est ça. Il y a un tampon, puis on le comprend. Puis le délai est acceptable pour ces centres-là aussi, le temps de se trouver des nouveaux locaux, tout ça. Pour ce qui est de la critique souvent de « Voyons donc, on les incite à prendre la drogue dure », dites-vous qu'ils apprendraient anyway.
C'est ça.
Ils apprendraient de façon isolée, puis peut-être qu'ils se transmettraient des maladies ouais. en prenant cette drogue-là cachée. Ça. Alors, on vient travailler en prévention des maladies et on vient travailler en accompagnement avec ces gens-là. Vaut mieux que la personne viennent, puis là, je vais te dire se piquer parce que j'ai parlé des maladies transmises. Vaut mieux qu'elle vienne se piquer 8, 10, 12 fois, supervisée.
Encadrée.
Et encadrée. Et que ce contact-là, par la suite, va mener la personne à prendre conscience de son état, à prendre conscience de sa dépendance et à demander de l'aide. Si on n'avait pas ces centres-là, ce processus-là ne se fait pas. Ces gens-là restent dans la rue, se piquent à vie, puis à un moment donné, on les retrouve morts sur un coin de rue.
Oui. Je ne suis pas, évidemment, expert dans le processus de déposer un projet de loi, puis là, que ça soit accepté, puis ça soit mis en action. Y a des projets de loi, des fois, je me dis, ben, aucune façon que les oppositions ou même les autres partis vont l'accepter.
En effet.
Ça, c'est très non. Je ne vois pas pourquoi.
Oh non, non, ça va
ça
passer.
Ça passe dans le beurre, comme on dit.
Oui, ça va passer dans le beurre. Et sur l'itinérance, j'étais très content du discours de Lionel Carman. Là, on le sait, là, la grosse bataille, ça va être d'aller chercher de l'argent. Il n'y en a pas d'argent au gouvernement, puis il y a tellement de besoins. Mais je suis content parce que quand il parle, j'ai l'impression d'entendre Éric Boulay. J'ai l'impression d'entendre les solutions d'Éric Boulay. Donc ça veut dire qu'il y a au moins un bon pas qui est fait en avant. C'est que le ministre parle le même langage que les gens qui sont sur le terrain. Combien de fois qu'on dit « ça n'a pas d'allure, il y a trop de gestionnaires, ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. » Bien là, entendre Lionel Carman ce matin, ça me rassure de savoir que le ministre sait exactement ce qui se passe sur le terrain et prône les solutions qui viennent du terrain. Donc, on part d'en bas, on monte en haut, au lieu de partir d'en haut et descendre en bas et imposer. Ça, c'est très positif pour la lutte à l'itinérance.
Très bon point, très bon point. Je me tourne vers le méga fan de Linkin Park, du trio, parce que j'ai une petite question pour toi. Toi qui aimes Linkin Park à ce point-là, qui en a consommé comme ça, aucun sens, que ce soit dans un centre supervisé ou pas, t'en as consommé du Linkin Park. Y a-tu des tunes que t'es tanné?
Pendant un bon bout, j'étais pas capable d'apprécier Numb.
OK.
Mais je l'aimais pas, puis maintenant, elle a comme même dépassé plein d'autres de mes préférés. Mais non, il y en a. Puis tu sais, combien de fois j'ai fait In the End au karaoké? J'ai deux classiques de karaoké: Mr. Brightside, In the End. Je m'étonne pas des deux.
Tu le voyais, tu venais? Ah, c'est pas Numb qu'on écoute. C'est In The End, ta toune de karaoké. Certaines personnes, des fois, j'entends des fans de Linkin Park, « Ah, c'est tout le temps, man! Ah, In The End, on l'a trop entendu! Nomme, on l'a... » Hey, sais-tu quoi? Moi, nomme n'importe quand. In The End, n'importe quand. Bon mercredi, tout le monde, à Rage Against le matin.